Bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez bien me faire plaisir, est-ce que ceux qui sont au fond pourraient s'avancer un petit peu pour remplir les chaises tristement vides qui sont devant moi? Et que nous puissions être plus près les uns des autres. Voilà, trouvez votre place, mettez-vous à l'aise. Alors merci en tout cas pour la double prière que nous avons eue concernant ce temps de prédication. C'est vrai que cette semaine j'ai été malade, pas très en forme. Et donc pour préparer cette prédication, il m'a fallu un peu de temps. Mais je compte sur la grâce de Dieu pour que la parole que nous avons lue puisse percer notre cœur. Parce que je crois que Dieu veut encore nous dire quelque chose cet après-midi. Et voilà, je me confie entièrement à sa grâce pour ça et non pas sur mes propres forces. À partir d'aujourd'hui et pour deux autres dimanches, nous commençons une nouvelle série de prédications que j'ai intitulée « Aimer ». Et pourquoi cette série? Parce que ce verbe « aimer » résume très bien ce que Dieu attend de son peuple, ce que Dieu nous commande. Et voici en gros un petit peu le teaser, le contenu de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler donc de « aimer Dieu ». Dans deux semaines, nous parlerons du fait d'aimer son prochain, et ça comprend aussi ses ennemis. Et puis, dans un mois, eh bien, nous parlerons du fait d'aimer ses frères et sœurs. Ça va pour le programme de cette série? Et tout logiquement, nous commençons par le commandement le plus important, ce qui nous est confirmé par Jésus lui-même. Parce que quand un spécialiste de la loi demande à Jésus « Quel est le commandement le plus important ?», le Seigneur lui répond que c'est celui d'aimer Dieu. Vous complétez? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et il dit aussi de toute sa force. Et bien sûr, il ajoute à cela le commandement d'aimer son prochain, mais j'en parlerai la fois prochaine. Donc, aimer Dieu de toute sa personne, c'est le commandement le plus important que nous ayons pour notre vie. C'est ce que Dieu attend des hommes et des femmes qui composent son peuple. Et vous en faites partie. Et Jésus cite ici une partie, en fait, de la confession de foi du peuple d'Israël, qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6. Alors je ne vais pas m'arrêter cet après-midi sur ce texte de Deutéronome 6, mais j'ai choisi donc cet autre extrait que nous avons lu quelques chapitres plus loin. Et j'aimerais simplement rappeler un petit peu, surtout si vous ne connaissez pas très bien le livre du Deutéronome, dans quel contexte eh bien, il a été écrit. En fait, Moïse écrit ce livre en s'adressant à la nouvelle génération, j'allais dire Nouvelle Jérusalem, à la nouvelle génération d'Israélites. Pourquoi nouvelle? Parce que la génération précédente a disparu dans le désert. Après 40 ans d'errance, eh bien, l'ancienne génération a fini par disparaître. En effet, Dieu leur avait dit de se lancer à la conquête du pays promis. Mais cette ancienne génération a eu peur des habitants du pays, a manqué de foi et finalement n'y est pas allé, a désobéi à Dieu. Conséquence, ils ont été condamnés à errer dans le désert et à finir leurs jours sans pouvoir entrer dans cette terre promise. Et ce sont leurs enfants, la nouvelle génération, qui vont pouvoir en profiter. Et ces derniers sont à présent, au moment où le Deutéronome, en tout cas les discours qui sont dans le Deutéronome sont prononcés, ils sont aux portes du pays promis. Là où coule le lait et le miel. Et Moïse doit les préparer avant cela, avant leur entrée dans la terre promise. Il doit les préparer en leur rappelant ce que Dieu attend d'Israël, son peuple. Si j'évoque très brièvement là où on en est dans ce chapitre 10 par rapport à l'ensemble du livre, eh bien en fait, le chapitre 10 est une conclusion par rapport à tout un discours que Moïse a prononcé en rappelant quelle était la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et notamment, vous retrouvez au chapitre 5 une reprise des 10 commandements. Donc ici, le chapitre 10 est, et on peut d'ailleurs aussi afficher le texte, est la conclusion de ce discours que Moïse a tenu en rappelant au peuple quelle était la loi que Dieu a donnée à son peuple. Il est question dans ce texte-là des attentes de Dieu à l'égard d'Israël. Ce que Dieu attend d'Israël, c'est qu'il le craigne, qu'il l'aime, qu'il soit attaché uniquement à lui. Et nous pourrions être surpris que Dieu donne à son peuple, en plus de cela, des raisons, des arguments pour l'aimer. Vous imaginez si un parent devait lister les raisons pour lesquelles son enfant devrait l'aimer ? Pourtant, Dieu dit bien à son peuple pourquoi ce dernier doit l'aimer. Dieu en donne les raisons. Dieu connaît son peuple, il sait que c'est un peuple rebelle. Et nous-mêmes qui faisons partie du peuple de Dieu aujourd'hui, nous n'arrivons pas toujours à aimer Dieu comme il nous le demande. Et pour ne pas nous égarer ou nous tromper de motivation, il nous faut revenir aux raisons que Dieu nous donne ici, de l'aimer. Il nous faut revenir aux raisons que Dieu nous donne ici de l'aimer. Et nous allons en voir trois aujourd'hui. Mais avant d'en arriver à la première raison, restons un instant sur l'exhortation principale de notre texte, qui se trouve au verset 12 et 13. Après ce que Moïse a dit précédemment, Israël ne peut pas se faire d'illusions. Moïse a rappelé les fois où le peuple n'a pas obéi à Dieu, au point que l'Éternel parlait de les détruire. Moïse a aussi rappelé qu'il a plaidé en faveur du peuple pour que justement Dieu n'aille pas jusqu'au bout de ce qu'il prévoyait. Et effectivement, Dieu a fait grâce. Effectivement, Dieu a épargné son peuple une fois de plus, et cela jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est ce mot que nous avons au verset 12. Vous êtes avec moi ? Verset 12, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies ? Que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ? Et que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux ?» Juste pour l'anecdote, ces deux versets que je viens de lire nous sont très chers à Damaris et à moi, parce que ce sont les versets que nous avons choisis pour notre mariage. Il nous rappelle qu'avant notre relation de mari et femme, c'est notre relation avec Dieu qui est première. C'était juste pour l'anecdote. Ce que Dieu demande à Israël, nouvelle génération, c'est de l'aimer. Oui, mes amis, l'amour se commande dans la Bible. Vous avez compris ce que je viens de dire ? L'amour se commande dans la Bible. Parce que pour Dieu, effectivement, c'est tout à fait sa nature d'aimer, de nous aimer. Mais en ce qui nous concerne, pour nous qui sommes pécheurs, ce n'est pas exactement dans notre nature. On a du mal à aimer. Nous avons besoin que Dieu nous le commande. Nous avons besoin que Dieu nous fasse comprendre pourquoi nous devons l'aimer. L'amour se commande dans la Bible. Et regardez tous ces verbes qui sont utilisés dans les versets 12 et 13. Dieu demande à son peuple de le craindre, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer et de le servir de tout son cœur et de toute son âme, de respecter ses commandements et ses prescriptions, ce qui le rendra alors heureux. Aimer Dieu implique tous ces aspects que je viens de dire. Et lorsqu'il est question notamment de la crainte de Dieu dans la Bible, eh bien cela désigne le respect le plus grand, l'honneur le plus grand que nous devons à Dieu. La crainte de Dieu, d'ailleurs ici, est mise en relation avec une vie d'obéissance. Vous avez remarqué comment c'est écrit ? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies ? Voilà pour la vie d'obéissance. Marcher dans toutes ses voies. Et effectivement, dans la Bible, aimer Dieu et obéir à ses commandements vont toujours de pair. Ça va toujours ensemble. Autrement dit, aimer Dieu, qu'est-ce que ça signifie? C'est faire ce qu'il demande. D'ailleurs, Jésus ne dit pas autre chose à ses disciples. Si je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, voici quelques versets dans ce chapitre où Jésus parle aux disciples en disant « Si vous m'aimez, verset 15, vous suivrez mes commandements. » Verset 21, « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Verset 23, Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. » Et verset 24, « Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. » Aimer Dieu, obéir à ses commandements vont de pair. Vous voyez ce que Jésus répète juste en quelques versets. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Frères et sœurs, en cette période de rentrée, parce que j'estime qu'on est encore au mois de septembre, dans une période où on peut dire qu'on est encore dans cette rentrée, nous devons prendre position. S'il s'agit d'aimer le Seigneur, il s'agit alors de lui obéir, de faire ce qu'il demande, de ne pas lui résister, de tenir compte de sa parole dans notre vie. Si Dieu te demande de marcher dans toutes ses voies, cela exclut tes propres voies, n'est-ce pas? Aimer Dieu de tout son être. Aimer Dieu de tout son être, c'est sans nul doute lui obéir jusqu'au bout, à tout ce qu'il a commandé dans sa parole. Il ne s'agit pas pour nous de choisir à quoi nous voulons obéir ou non. Aimer Dieu engage toute notre personne. Aimer Dieu engage toute notre intelligence. Aimer Dieu engage toute notre vie. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que Dieu peut-il exiger autant de notre part? A-t-il le droit d'exiger autant de notre part? Qu'on puisse l'aimer de toute notre personne? Eh bien, la réponse est oui. Oui, il le peut. Et pour la raison suivante, versets 14 et 15. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance. C'est vous qui l'a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons parlé de la création. Vous vous en souvenez un petit peu, pour ceux qui étaient là en tout cas? On a parlé de la création. Nous avons dit que Dieu avait tout créé, le ciel et la terre. Et à ce titre-là, tout lui appartient, l'univers entier. Et malgré l'immensité de tout ce qui lui appartient, Dieu dit dans sa parole qu'il s'est attaché à des hommes, verset 15, pour les aimer. Malgré l'immensité de tout ce qui lui appartient, il dit dans sa parole qu'il s'est attaché à des hommes pour les aimer. Dieu a fait un choix. Il a choisi les ancêtres du peuple d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que toute leur descendance. Dans quel but? Pour avoir un peuple qui lui appartienne. Un peuple qu'il aime, parmi tous les autres peuples de la terre. Et c'est étonnant quand nous y pensons. Un Dieu si grand, qui s'intéresse à des êtres si petits et si mauvais. C'est étonnant. Et tout aussi étonnantes sont ces paroles que nous lisons quelques chapitres avant notre texte. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8, voici ce que nous lisons. « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte. » Vous avez entendu ces paroles. Ce n'est pas parce que vous êtes plus grand que tous les autres peuples. Non, rien à voir. Dieu donne comme simple justification « parce que je vous aime ». je vous ai choisi. Quand Dieu choisit, il le fait par amour et non par mérite. Et cet amour de Dieu, bien sûr, nous le retrouvons aussi dans le Nouveau Testament. Et particulièrement la personne de Jésus, en qui nous trouvons la plus grande et la plus belle manifestation de l'amour de Dieu. Et j'aimerais encore vous inviter à écouter ce que les apôtres disent au sujet de celles et ceux qui sont unis à Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 4. « En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » 1 Pierre chapitre 1, verset 2. « Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. » Et toujours dans cette première lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 9, nous lisons « Mais vous, vous êtes un peuple élu. » Il est clair qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis aussi. Et il l'a fait non selon nos mérites, mais selon son amour inexplicable. Il nous a choisis pour que nous fassions partie d'un peuple qui soit à lui. Et puisque nous sommes son peuple, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre être. Est-ce que ça vous paraît logique ? Puisque nous sommes son peuple, il nous demande de l'aimer de tout notre être. D'ailleurs, il y a ce cantique « Dieu Tout-Puissant » et nous chantons justement ces paroles quand nous disons « Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. » Vous vous souvenez de ces paroles ?« Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. » Et oui, effectivement, ça reste un mystère pour nous que le Seigneur de l'univers nous ait choisi. Mais ce n'est pas moins une réalité. Une réalité dont nous devons nous souvenir régulièrement. Dieu nous a choisis. Nous ne pouvons pas l'expliquer autrement que par son amour. Puisqu'il n'y a rien en nous qui soit aimable. Cela reste un mystère, mais Dieu nous a choisis, sinon nous ne serions pas là cet après-midi. Et ce qu'il attend de son peuple aujourd'hui, c'est qu'il l'aime et le serve de tout son cœur et de toute son âme. Et nous avons vu ce que cela impliquait d'aimer Dieu, c'est-à-dire une obéissance à toute sa parole. Est-ce que le Dieu qui t'a choisi t'appelle encore cet après-midi à lui obéir ? Peut-être dans un domaine où tu n'as pas suivi sa volonté. Donc, quelle était la première raison, dites-moi, pour laquelle nous devons aimer Dieu, d'après ce que je viens de dire ? Dites-moi. Je n'ai pas entendu. Oui, c'est un commandement. Effectivement, Dieu nous a aimés le premier, Dieu nous a choisis. Et donc l'exhortation que nous sommes invités à suivre, c'est d'aimer Dieu parce que Dieu nous a choisis. Ça, c'était la première raison. Nous arrivons à la deuxième raison, mais avant, lisons le verset 16. « Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. » Je vais lire une version plus littérale de ce verset. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. Circoncire son cœur, ne plus raidir sa nuque. Nous avons ici deux images empruntées au langage du corps. Ces deux images qui expriment une même réalité. Celle de notre attachement à Dieu. Celle de notre obéissance à ses commandements. En fait, dans l'exhortation de ce texte, les choses sont répétées. Et c'est vrai, si le cœur est circoncis, transformé, marqué par la fidélité à Dieu, eh bien dans ce cas-là, il ne sera plus porté à la rébellion, la nuque ne va plus se raidir. Dieu adresse ici à son peuple un appel à une transformation qui est intérieure. C'est pour ça qu'il utilise l'image de la circoncision. Bien sûr, les Israélites connaissent bien la circoncision sur tous les mâles, sur tous les hommes. Mais ici, il utilise ce langage métaphorique, imagé, pour bien expliquer que ce n'est pas seulement l'aspect extérieur qui compte, mais ce qui est à l'intérieur. Et donc, d'où cette exhortation, verset 16, « Circoncisez votre cœur ». Et ce qui est étonnant dans cette demande, c'est qu'en réalité, le peuple ne peut pas le faire. Le cœur du peuple d'Israël est trop atteint par le péché pour pouvoir se tourner de lui-même vers Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela ? Pourquoi Dieu demande quand même de circoncire son cœur si le peuple ne le peut pas ? Eh bien, en fait, le Seigneur veut montrer à son peuple combien il a besoin de cette transformation. Et cette transformation, il ne peut que la trouver auprès de Dieu. Parce qu'en réalité, qui peut changer le cœur d'un homme si ce n'est Dieu ? Donc, de pouvoir permettre au peuple de prendre conscience qu'il a besoin, effectivement, que son cœur change. Et dans quel but ? D'aimer Dieu. D'ailleurs, quand on lit un peu plus loin, au chapitre 30 de ce même livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 6, nous lisons ceci. Deutéronome 30, chapitre 30, verset 6. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Là, quelque chose est dit autrement. Autant dans ce chapitre 10, Dieu dit « circoncisez vos cœurs ». Et ici, au chapitre 30, Dieu, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Dans quel but ? Pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu. De nouveau, l'amour pour Dieu. Et bien sûr, ce qui va avec l'obéissance à ses commandements. Autrement dit, l'obéissance devient possible seulement s'il y a eu cette transformation intérieure. Seulement si le cœur a été changé. Et en fait, il faudra attendre un moment avant que cette promesse se réalise. Avant que ce que Dieu a annoncé puisse se réaliser. Il faudra attendre la nouvelle alliance. Une fois que Christ aura tout accompli. Pour que cette œuvre accomplie par le Saint-Esprit se fasse dans le cœur de tous les membres du peuple de Dieu. Mais le temps me manque de pouvoir entrer dans les détails, mais simplement qu'on puisse retenir qu'on a besoin de cette circoncision du cœur pour pouvoir aimer Dieu. Autrement, ce n'est pas possible. Il ne vous a pas échappé, je pense, que jusqu'à lundi dernier, les médias ont beaucoup parlé de la reine Elisabeth II. Si vous avez suivi un petit peu, en tout cas, j'espère que tout le monde est au courant ici. En tout cas, durant les jours qui ont suivi son décès, il était question des hommages que le peuple britannique avait rendus à sa défunte reine, au fur et à mesure des déplacements du cercueil jusqu'à son lieu d'inhumation. Et lundi dernier, eh bien, j'ai suivi la cérémonie des funérailles de la reine. Et alors qu'on rendait hommage à juste titre à cette souveraine, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à celui qui est au-dessus de tous les souverains de la terre. D'ailleurs, à cette cérémonie des funérailles, nombreux étaient présents ce jour-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à notre Dieu, envers qui nous devons un respect encore plus grand, une crainte suffisamment grande pour ne pas vouloir lui déplaire. À notre Dieu reviennent tous les honneurs, n'est-ce pas ? Et dans les versets 17 et 18, eh bien, l'Éternel donne une raison à la question « Pourquoi circoncire son cœur ? Pourquoi se soumettre à lui ?» Eh bien, explication, verset 17, « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Parce qu'il est Dieu, l'obéissance de son peuple doit être absolue. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Dieu redit à son peuple quel Dieu il est. Et à coup sûr, à Israël, Dieu a déjà démontré sa puissance lorsqu'il l'a libéré de l'Égypte. Dieu a bien montré qu'il était plus fort que l'Égypte et que les dieux égyptiens, même s'ils n'existent pas en réalité. L'Égypte, qui a si longtemps tenu ce peuple en esclavage, n'a pas pu empêcher sa libération. L'Éternel est bien au-dessus de toute autorité, on l'a chanté aussi. Mais pour autant, même s'il est au-dessus de toute autorité, ça ne veut pas dire qu'il est un tyran. Le Dieu d'Israël est un Dieu juste, un Dieu qui n'agit pas par favoritisme, un Dieu qui ne se laisse pas acheter comme ceux qui cèdent à la corruption. Ce Dieu si grand sait s'occuper de ceux qui sont facilement mis de côté. L'orphelin, la veuve, l'étranger. Et dans un commentaire de la Bible d'études du Semeur, je lis « L'Éternel manifeste sa grandeur en s'occupant des petits. » L'Éternel manifeste sa grandeur en s'occupant des petits. Oui, le Dieu que nous sommes venus adorer cet après-midi est le Dieu qui s'occupe des petits, des faibles, de ceux qui sont laissés de côté. Et c'est pour cela qu'il peut demander à son peuple d'agir de même au verset 19, en l'occurrence d'aimer l'étranger. Est-ce trop demander que d'aimer un tel Dieu? Ce Dieu qui nous a choisis, ce Dieu qui est en même temps un Dieu redoutable et qui s'occupe des petits, lui qui est le Seigneur des seigneurs, ce qui signifie que personne n'est au-dessus de lui. Ce Dieu-là nous commande de l'aimer, de lui obéir. Et nous avons bien compris que cela n'est possible que s'il a transformé notre cœur auparavant. Donc jusque-là, nous avons vu que dans son amour, il nous a choisis pour lui appartenir. Première raison de l'aimer. Nous venons de voir à présent que tel qu'il est, en tant que Dieu, c'est une raison suffisante pour l'aimer. Et encore faut-il ajouter une motivation à l'amour que Dieu nous demande. Est-ce qu'il faut encore nous motiver, nous secouer? Eh bien, Dieu le fait, en tout cas. Regardez le verset 20. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. Et c'est par son nom que tu prêteras serment. Nous revenons à l'exhortation de départ. Craindre Dieu, le servir, s'attacher à lui, prêter serment par son nom. Et ici, la traduction rend bien ce que nous trouvons dans le texte hébreu. Cette insistance sur Dieu. C'est l'Éternel que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. Et c'est par son nom que tu prêteras serment. L'amour que Dieu demande à son peuple doit être exclusif. C'est lui et seulement lui. Personne d'autre. Ce n'est pas un amour qui se partage avec des idoles. Non, quelle horreur. Israël doit aimer l'Éternel et l'Éternel seul. Et cette exhortation à servir Dieu seul, eh bien, reprend en fait déjà des paroles qui ont été dites par Moïse, notamment au chapitre 6. Je relis simplement ce verset, Deutéronome 6, verset 13. « C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Donc c'est à peu près la même chose. Alors pourquoi j'évoque quand même Deutéronome 6, 13? Tout simplement parce que notre Seigneur Jésus l'a cité au moment où il était tenté dans le désert. Je vous lis simplement cet extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Matthieu chapitre 4 et les versets 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Je ne prendrai pas ici le temps de démontrer comment Matthieu nous montre, en particulier dans le début de son évangile, que Jésus est le véritable Israël. Là où le peuple d'Israël avait échoué dans le désert, Jésus a réussi. Jésus a entièrement obéi à cette parole du Deutéronome. C'est l'Éternel ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Et effectivement, par rapport à Jésus, aucun d'entre nous ne peut prétendre faire mieux que lui. Et en ce sens, nous dépendons tous de ses mérites à lui. C'est pour cela que c'est lui notre sauveur. Lui a réussi. Là où Israël a échoué, là où nous sommes encore capables d'échouer nous-mêmes. Mais revenons à notre texte pour lire la suite. Les deux derniers versets. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Nous avions vu dans les versets 17 et 18 quel grand Dieu était l'Éternel. Et ici, les expressions sont au verset 21. Plus personnel, il est ta gloire, il est ton Dieu. Certains traduisent à la place de « il est ta gloire », il est ta louange, il est le sujet de tes louanges. Et effectivement, en considérant tout ce que Dieu a fait, le peuple ne peut que le célébrer, ne peut que le louer. Et ce Dieu grand et redoutable, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des actes grands et redoutables. Verset 21. L'allusion ici est sans doute l'événement de l'Exode, la libération de l'Égypte. Et le peuple en a été témoin. Le peuple le sait bien qu'il a été libéré de l'Égypte. Ce Dieu qui s'occupe des petits est intervenu en faveur d'Israël. Et le verset 22, d'ailleurs, rappelle à Israël son histoire et la réalisation de la promesse que l'Éternel a faite à Abraham, que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Oui, c'est désormais chose faite. Et si Dieu a sauvé ce peuple si nombreux, c'est pour être son Dieu et pour qu'il soit son peuple. Et tout au long du Deutéronome, il est question de cette alliance entre Dieu et son peuple. Parce que c'est dans le cadre de cette relation particulière que l'Éternel demande à Israël de le craindre, de le servir, de l'aimer et de lui obéir, dans le cadre de cette alliance. Quant à nous, quels sont les actes grands et redoutables que Dieu a faits en notre faveur ? L'Exode, la libération de l'esclavage en Égypte, a servi de motif tout au long de l'Ancien Testament pour annoncer quoi ? Pour annoncer une libération encore plus grande. L'apôtre Paul écrit cela aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 6, versets 6 à 10. « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. » Il n'a plus à répondre du péché. Oui, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. grâce à la mort et à la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché comme autrefois. Notre vie est nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il s'agit aussi pour nous d'aimer Dieu et de nous attacher à lui et à lui seul, sans regarder ailleurs, sans donner notre cœur à ce qui n'est pas Dieu. Parce que seul Dieu nous a sauvés. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres dieux qui vous ont libérés ? Église de sa mort ou d'ailleurs, Église, il est ton Dieu et tu es à lui. C'est donc lui que tu aimeras, que tu serviras, à qui tu t'attacheras. Vérifie que tu n'as pas d'autre Dieu dans ton cœur, que ton cœur ne s'attache pas à autre chose qu'à Dieu. Et parfois, si nous nous l'avouons, nous ne voulons pas lâcher nos idoles. Que ce soit l'argent, le sexe, les loisirs, notre travail, notre ministère, notre famille. Oui, toutes ces choses peuvent aisément remplacer Dieu dans notre cœur quand nous n'y prenons pas garde. Vérifie que tu n'as pas d'autre Dieu dans ton cœur. Parce que lui seul mérite d'être appelé notre Dieu. Lui seul nous a libérés du péché. Et pas toutes ces choses auxquelles nous nous attachons si facilement. Et en cette période de rentrée, revoyons notre engagement envers notre Dieu. Sans doute que nous trouverons des ajustements à faire. Revoyons notre engagement envers Dieu. J'aimerais maintenant récapituler ces trois raisons que nous avons vues à partir de ce texte. Parce que c'est vrai, les motivations, les raisons d'aimer Dieu ne manquent pas. Et nous en voyons trois ici. D'abord parce qu'il nous a choisis. Ensuite, parce qu'il est Dieu. Et enfin, parce qu'il nous a sauvés. Que ces raisons qui sont évoquées dans la parole de Dieu touchent notre cœur, nous saisissent et nous conduisent à aimer notre Dieu de toute notre personne, alors que nous comprenons pourquoi nous devons le faire, pourquoi il nous commande de le faire, pourquoi nous avons de bonnes raisons de le faire. Parce qu'il nous a choisis, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a sauvés. Quel privilège d'être au service d'un tel Dieu. Quel privilège d'être en relation avec un tel Dieu. Dieu nous a-t-il motivés cet après-midi pour l'aimer entièrement ? Dieu nous a-t-il motivés pour l'aimer sans cœur partagé, en étant tout à lui ? J'aimerais vous proposer que vous puissiez, en réponse à la parole de Dieu, en réponse à ce que Dieu vous a dit cet après-midi, de pouvoir répondre à Dieu par écrit. J'ai préparé des post-it, c'est pour vous, c'est entre vous et Dieu. Mais dans quelle mesure le fait que Dieu nous commande de l'aimer de tout notre cœur, en quoi cela fait écho dans notre vie ? Qu'est-ce que nous avons effectivement encore à corriger ? À quoi nous pouvons nous engager devant lui et seulement devant lui ? Il ne s'agit pas pour nous de partager nos feuilles et de montrer notre engagement, on peut le faire. Mais avant tout, que cet engagement puisse être pris par chacun et finalement par l'ensemble du peuple de Dieu. Donc il y aura un petit temps. Il y aura une petite musique et durant le temps de cette musique-là, eh bien, vous pourrez écrire sur ce papier. Donc j'ai pris des post-it, monsieur, madame. Et Damaris a quelques stylos. Et en tout cas, si certains peuvent m'aider simplement à distribuer ça. Peut-être qu'en nous examinant, Seigneur, nous nous sommes rendus compte combien nous sommes loin de ton exigence de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et pourtant, nous sommes bien conscients que nous avons besoin de ton aide pour cela. Nous avons besoin que tu renouvelles cet amour en nous, afin qu'effectivement, nous puissions encore nous consacrer à toi entièrement. Parce que ce que tu nous demandes, c'est un amour exclusif, un amour entier. De pouvoir comprendre que, effectivement, nous te devons tout, et déjà, premièrement, notre vie. Et on te remercie, Seigneur, parce que, oui, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis en premier. C'est toi qui nous as aimés. Et de manière juste, Seigneur, tu as raison de nous demander de t'aimer en retour. Merci parce que tu es Dieu. À la fois ce Dieu qui a tout créé, qui possède l'univers entier, et en même temps qui s'occupe des petits. En même temps qui prend soin de chacun d'entre nous. Alors oui, un tel Dieu, comment ne pas l'aimer ? Et puis nous voulons aussi te remercier parce que, effectivement, tu nous as sauvés. Oui, par Jésus-Christ, tu nous as ramenés à la vie. Et tu nous as permis de pouvoir expérimenter une communion que nous ne connaissions pas auparavant. Une communion avec toi, mais aussi une communion les uns avec les autres, au sein de ton peuple. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Merci parce que tout cela n'est que grâce de ta part. Et merci de nous aider encore, alors que une nouvelle semaine est devant nous, de nous aider à t'aimer comme tu nous le demandes, avec l'aide de ton esprit, avec ton soutien. Oui, Seigneur, il n'y a que toi qui mérites d'être appelé notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, par rapport à ce que nous avons pu noter dans nos engagements, dans ce que nous avons besoin de corriger. Aide-nous en particulier. Et permets-nous ainsi de pouvoir mener une vie qui te plaise, une vie qui recherche à te plaire. Parce que, Seigneur, tu en es digne. Toi qui as tout fait pour nous. Et c'est à notre tour aussi de tout faire pour toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons tout cela. Amen.